Bonjour à tous, c'est l'heure de Force 7, le magazine d'information régionale de Fréquence Mistral, proposé et présenté par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Louis, bonjour à tous.
Nous évoquerons la situation de Sébastien Raoult, incarcéré au Maroc depuis plus de 3 mois. Ce jeune Vosgien risque d'être envoyé aux États-Unis où une plainte pour piratage informatique le condamnerait à 116 ans de prison. Sa tante Isabelle Coffet est notre invitée. À tout à l'heure. La Chambre d'agriculture du 04 et Provence-Alpes Agglomération renouvellent leur partenariat pour une alimentation saine et locale. À Digne, la ville poursuit sa dynamique vers des écoles inclusives, le reportage d'Odile Frison dans ce magazine. Le film Napoléon d'une rive à l'autre, tourné à Sisteron, sera prochainement projeté dans sa ville, le reportage de Chris Alessandri pour Force 7. Et puis nous reviendrons sur la 18e édition du festival Blues et Polar à Manosque, des témoignages le confirment, le cocktail musique et roman noir est réussi, notre reportage en fin de ce magazine. François, nous ouvrons ce magazine avec une invitée.
Oui, et c'est avec plaisir que je reçois Isabelle Coffet. Bonjour Isabelle.
Bonjour, merci de me recevoir.
Oui, on vous reçoit parce que nous allons parler d'une question grave et qui nous préoccupe terriblement. C'est la situation de Sébastien Raoult. C'est un jeune Vosgien de 21 ans, actuellement incarcéré au Maroc et qui est accusé de cyberattaque par le gouvernement et par des entreprises américaines. Et vous êtes la tante, Isabelle Coffet, de Sébastien Raoult. Qu'en est-il aujourd'hui ?
Sébastien Raoult a été arrêté au Maroc alors qu'il rentrait chez lui à Épinal après quelques vacances, déjà le 31 mai de cette année. Il a été mis sous écrou extraditionnel parce que les États-Unis demandent son extradition pour être jugé sur des faits présumés de cybercriminalité. L'avocat de Sébastien, Maître Oyon, pénaliste international, découvre au fur et à mesure de ce dossier beaucoup de choses qui sont extrêmement étranges. Il n'a pour l'instant entre les mains que l'acte d'accusation des États-Unis, rien d'autre pour défendre son client. Il a demandé à la France de produire les preuves du fait qu'il y a eu depuis 2 ans déjà une demande d'entraide internationale adressée à la France par les États-Unis. Et depuis qu'il demande ces documents, le ministère de la Justice, le ministère des Affaires étrangères en France, nous répondent « Nous n'avons rien contre Sébastien Raoult ». Nous, ce que nous demandons avec l'avocat, c'est que Sébastien, qui est un Français, habitant régulièrement en France, qui n'a jamais mis les pieds sur le sol américain, soit extradé en France pour y être jugé. Mais le gouvernement nous répond « Mais nous ne pouvons pas demander l'extradition de Sébastien vers la France parce que pour demander une extradition, il faut avoir quelque chose à reprocher à quelqu'un. Or, Sébastien Raoult, nous n'avons rien contre lui, ni policier, ni judiciaire. »
Donc il est absolument blanc au niveau de la justice et de la police en France.
C'est ce que nous disait jusqu'à hier la France. Nous disait on n'a rien et on n'a jamais rien eu sur Sébastien Raoult.
Et depuis hier, qu'est-ce qui a changé ?
La semaine dernière, Maître Oyon, là, de ne pas avoir de réponse du ministère de la Justice, a déposé une requête auprès du tribunal administratif des référés. Il y a donc eu une représentation du ministère de la Justice qui s'est présentée et ils nous ont dit 3 choses intéressantes. La première, le tribunal des référés n'est pas habilité, n'est pas compétent parce que la pièce, c'est-à-dire la demande d'entraide internationale adressée par les États-Unis à la France, n'est plus entre nos mains. Elle a été maintenant envoyé au pôle judiciaire. Et puisqu'il y a séparation des pouvoirs entre le judiciaire et l'exécutif, nous ne pouvons plus intervenir. C'est très intéressant parce que c'était la première fois qu'enfin l'État français reconnaissait qu'il y avait eu une demande d'entraide internationale adressée par les États-Unis à la France.
Avec donc un dossier, ça veut dire.
Et donc par conséquent un dossier depuis le 21 juillet 2020, il y a 2 ans, qui court sur l'affaire dit des Shiny Hunters, dans laquelle Sébastien est nommé.
Alors, sur quel fait et sur quoi est basée son accusation ?
Alors, on n'a que l'acte d'accusation des États-Unis. Sur l'acte des accusations des États-Unis, il est question du dossier des Shiny Hunters, qui seraient des hackers internationaux qui auraient hacké des grosses sociétés dans le monde entier, notamment Microsoft. C'est tout ce qu'on a. C'est tout ce qu'on a. On n'a rien.
Et votre neveu n'a jamais été inquiété depuis 2020, depuis le début de cette affaire, donc.
Mon neveu n'a jamais été inquiété. Je pense vraiment qu'il fallait qu'il ne soit pas inquiété, parce que si Sébastien avait été inquiété en France et que les États-Unis aient demandé leur extradition, qu'aurait répondu le gouvernement français ? Nous n'extradons pas nos nationaux. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, nous n'allons pas extrader Sébastien, parce que les faits que vous lui reprochez auraient été faits en France. Deuxième raison, pour ne pas extrader une personne. Jamais Sébastien n'a mis les pieds aux États-Unis.
Alors aux États-Unis, je me suis renseigné évidemment sur son cas. Il risque plus de 100 ans de prison si jamais on connaît la faillibilité du système judiciaire et pénitentiaire des États-Unis. On connaît aussi sa manière expéditive d'envoyer les affaires. Vous souhaitez, vous, que Sébastien soit évidemment rapatrié dans son pays de manière à ce que son cas soit examiné. Je dis même pas jugé, je dis simplement examiné.
Je pense que c'est important qu'il soit jugé. Sébastien se déclare innocent. Hein. Depuis le début, il dit qu'on a abusé de ses identifiants sur Internet. Hein. C'est le tribunal qui le dira et seulement le tribunal qui peut en juger. Cette histoire des 116 ans de prison, ça pose vraiment problème. 116 ans de prison, pour moi, c'est la perpétuité. Mais les Américains nous disent non, c'est pas la perpétuité, c'est 116 ans. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas notre justice. Vraiment, les Américains ont une justice qui n'est pas notre justice. Voilà. Alors, 116 ans de prison, ça pose un problème parce que la perpétuité, selon les droits de l'homme européens, c'est un acte de torture. Normalement, si les Marocains examinent bien le dossier, ils ne doivent pas accepter l'extradition. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les Américains n'ont fourni aux Marocains aucune certitude quant à la possibilité pour Sébastien de faire réviser sa peine. Dans le droit américain, avant d'avoir fait 25 ans de prison, il ne pourrait absolument pas demander que sa peine soit révisée.
Ça veut dire 25 ans minimum d'incarcération.
Ce n'est pas une peine de 25 ans. C'est-à-dire que si c'est sa peine à perpétuité, il faudra déjà qu'il attende 25 ans avant de pouvoir dire à un juge « je voudrais bien qu'on réexamine la durée de ma peine ». Ça, c'est au regard du droit de l'homme européen un acte de torture.
Donc je suppose évidemment que vous êtes mobilisé avec votre frère, qui en ce moment fait beaucoup de battages médiatiques parce que vous avez besoin qu'on vous soutienne, évidemment, et c'est ce que nous allons faire avec Fréquence Mistral, est-il besoin de l'ajouter. Comment faire pour rejoindre votre comité, Isabelle ?
Pour rejoindre notre comité, il suffit que vous envoyiez un mail disant que vous souhaitez être informé sur seb.raoult@yahoo.com. C'est l'adresse du comité, hein. C'est pas l'adresse de Sébastien, de toute façon il n'a pas accès à un ordinateur, mais c'est bien l'adresse du comité. Et à partir de là, on vous enverra toutes les informations qui pourront vous aider à parler de ce cas à vos amis, à toutes les personnes que vous pouvez connaître. Il faut absolument que les citoyens français sachent ce qu'il se passe.
Oui, parce que si jamais ils traversent l'Atlantique, eh bien c'est terminé, quoi. Ça va être beaucoup plus difficile pour le défendre.
Je pense qu'on ne le reverra plus.
En croisant les doigts avec vous, Isabelle, vous avez sollicité aussi des personnalités ?
Oui,
vous-même
absolument.
Vous-même et votre frère ?
Absolument. Monsieur Michel Vauzel nous a rejoint. Il s'est dit très concerné par la question de Sébastien Raoult. Il estime que la France doit reprendre la main sur ce dossier. Il rejoint le comité et il s'est mis en contact avec Maître Oyon.
Michel Vauzel, c'est l'ancien président de la région, mais également ancien garde des Sceaux.
Ancien garde des Sceaux. Nous avons également, depuis le départ, le soutien très actif de notre député Léo Walter. Nous avons le soutien de René Frény.
L'écrivain. Et puis, je suppose que la liste est ouverte.
Ah, la liste est ouverte et nous essayons de solliciter des personnes du monde de la littérature, par exemple. Nous essayons de trouver dans notre pays des Zola, des Hugo qui pourraient parler de ce cas.
Et il y en a quelques-uns.
Il
donc,
y en a.
Peut-être même qui nous écoutent, donc n'hésitez pas à soutenir l'action d'Isabelle Coffey et de son frère, Paul Raoult, qui se battent tout simplement pour que Sébastien Raoult puisse revenir en France de manière à avoir un procès au moins équitable et pas du tout être extradé aux États-Unis. Isabelle Coffey, vous voulez rajouter quelque chose avant de terminer ?
Oui, absolument. En fait, le plus grave dans cette histoire. Je vous ai dit que Maître Oyon s'était adressé au tribunal administratif des référés, que le ministère de la Justice avait reconnu qu'il y avait une demande d'entraide internationale qui avait été demandée. Ça, c'est une chose extrêmement positive. Mais il y a aussi une chose très inquiétante qui a été dite. C'est que le ministère a dit que même s'ils avaient encore entre leurs mains ce document, ils ne le fourniraient pas à la défense parce qu'ils avaient signé avec les États-Unis une clause de confidentialité. Et la personne représentant le tribunal a même ajouté qu'il se trouvait dans un conflit de loyauté. Fallait-il être fidèle à la parole donnée aux États-Unis ou faut-il être fidèle à un citoyen français qui a besoin de documents pour se défendre ? C'est extrêmement grave. Cette clause de confidentialité, elle existe toujours dans une demande d'entraide entre États. C'est une clause qui est nécessaire, par exemple, pour défendre la sécurité d'un État ou pour défendre une enquête le temps qu'elle soit terminée. Mais l'enquête est terminée. Les États-Unis ont terminé leur enquête en France. Il appartient maintenant à la France d'exiger des États-Unis qu'ils les autorisent à lever cette clause de confidentialité. Sinon, ça veut dire quoi ? Il y a quoi dans ce secret qui est demandé ? Qu'est-ce qu'on a demandé ? Qu'est-ce que la France a promis ? Qu'est-ce que les États-Unis ont accordé à la place de Sébastien Raoult ? Il faut vraiment se poser la question. C'est un déni de justice. On ne peut pas laisser quelqu'un sans droit de se défendre. Je rappelle que Maître Oyon n'a qu'une seule pièce, c'est l'acte d'accusation des États-Unis. Il n'a rien d'autre pour défendre son client.
Merci beaucoup Isabelle, bon courage.
Merci.
Pour une alimentation locale.
La convention cadre de partenariat entre la Chambre d'agriculture du 04 et Provence-Alpes Agglomération a été renouvelée. Établie depuis 2018 par l'intercommunalité, cette collaboration prévoit des actions visant à la préservation, la pérennisation et la redynamisation du territoire agricole de l'agglomération dignoise. D'une durée de 4 ans, la nouvelle convention intègre aujourd'hui pleinement les enjeux du projet alimentaire territorial de P2A et s'articule autour de plusieurs objectifs phares. Patricia Granet-Brunello et Bruno Assiai pour Provence-Alpes Agglomération, puis le président de la Chambre d'agriculture des Alpes de Haute-Provence, Frédéric Esmiol, présente les enjeux de ce partenariat au micro d'Odile Frison. Tout de suite, Patricia Granet-Brunello qui préside P2A.
On signe déjà la convention qui lie l'agglomération à la Chambre d'agriculture, c'est le renouvellement. Hein. Nous en avons déjà signé une. Et on a ce fameux plan alimentaire territorial et la Chambre d'agriculture nous accompagne fortement sur ça. Tout comme on travaille, je crois, sur de nombreux sujets importants pour tous, hein, pour la Chambre et puis pour nous-mêmes, sur le foncier agricole, sur la gestion de l'eau, par exemple, toute la problématique que nous, on peut avoir au niveau du barrage de Volouve, par exemple, et d'où je me rends compte qu'aujourd'hui, peut-être qu'on va monnayer très cher l'eau un de ces jours, vu les problématiques malheureusement liées à la sécheresse, en tout cas sur l'accompagnement de ce barrage, sur tous les labels, le label GeoFood, sur donc, à l'intérieur du PAT, c'est vrai qu'on retrouve un grand panel qui concerne l'agriculture sur ce département, hein, puisque c'est tout le travail avec les agriculteurs. Et moi, mon objectif dans les projets qu'on fait, c'est de pouvoir, nous, apporter des réponses concrètes à nos habitants, mais de pouvoir aussi, justement, faire travailler un gros pan de l'activité économique de notre département qui est lié à l'agriculture. Donc hier, on a pu aborder toute la problématique de la lavande, de la ressource de cette lavande qu'il faut pouvoir protéger et permettre aux producteurs de le faire correctement et d'être accompagnés. Donc là, vous avez compris que ça, nous, on soutient, mais que ça se passe au niveau parlementaire, gouvernement, et puis toute la problématique européenne sur laquelle il ne faut rien qu'on lâche.
L'agriculture, donc, c'est un axe majeur sur l'économie de notre département. Quand on est une agglomération qui gère deux abattoirs, qui sont des outils essentiels pour l'activité agricole, et notamment la filière viande, quand on gère une retenue d'eau comme le barrage de Volouve, qui est nécessaire à l'irrigation agricole, quand on est aussi un territoire touristique où L'agriculture, notamment le pastoralisme, quand même intervient fortement sur l'attractivité de notre territoire. Et puis, quand on se veut un territoire de pleine santé, le projet alimentaire territorial tombait sous le sens. Et c'est pour ça qu'en 2017, les élus de l'agglomération, toute nouvelle, avaient bien décidé d'engager une stratégie alimentaire sur son territoire. C'est en 2020 que ce projet alimentaire territorial a vu le jour. Le PAT, c'est quoi? C'est rapprocher le consommateur local de la production locale, bien évidemment. Permettre à tous d'accéder à une alimentation de qualité, saine et locale, lutter contre le gaspillage alimentaire et puis aussi favoriser l'installation et la transmission des exploitations agricoles sur notre territoire. Donc c'est travailler sur le foncier agricole, un des axes aussi de cette convention. Ce projet alimentaire territorial a rassemblé un nombre important d'acteurs du territoire. Donc c'est possible, on l'a démontré sur ce territoire. Et une première convention avait déjà été signée avec la Chambre d'agriculture, ça a été dit, en 2018, et elle a pris fin en 2021. Donc aujourd'hui, c'est le renouvellement de cette convention avec quand même des axes bien plus précis, notamment sur le projet alimentaire territorial et sur le lancement du label GeoFood et sur le foncier agricole. Un exemple de coopération, Patricia, tu en as parlé, le barrage de Volouve, dont ça nous a posé beaucoup de questions, mais on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une nécessité de conserver ces retenues d'eau. Alors après, la vraie question, c'est dans quelles conditions on va devoir les maintenir, à quel tarif effectivement pour les agriculteurs, et en fonction aussi de leurs besoins aux agriculteurs et de leur adaptation à ce changement climatique. Donc ça, c'est un gros travail qui est mené aussi avec la Chambre d'agriculture. Nous avons aussi sur le foncier agricole, je le disais, c'est un axe majeur pour l'agriculture et donc l'alimentation. Et dans l'élaboration aussi du schéma de coopération territoriale, de cohérence territoriale, pardon, de France Agglomération, la Chambre d'agriculture nous accompagne fortement sur cet aménagement de territoire pour préserver ce foncier agricole et pour faire en sorte que de jeunes exploitants agricoles qui apportent aussi la diversité agricole sur ce territoire puissent accéder à du foncier agricole assez facilement. Et puis aussi être vigilant et raisonner sur l'expansion immobilière qu'on pourrait voir sur ce territoire au détriment de foncier agricole. Et puis ça a été évoqué aussi le label GeoFood qui a été lancé au mois de juin, qui se veut être la promotion des producteurs et des artisans locaux en matière alimentaire. Et là aussi, c'est un des axes forts des chambres consulaires et dont la Chambre d'agriculture pour nous aider à développer ce label. Cette convention avec la Chambre d'agriculture est une évidence sur un territoire agricole comme le nôtre, avec un rôle majeur dans l'économie. C'est donc la Chambre qui nous accompagne en tant qu'acteur important de ce projet alimentaire territorial.
Bon, mais écoutez, alors je vais compléter et puis déjà vous remercier effectivement d'avoir fait confiance à la Chambre d'agriculture pour vous appuyer, pour signer cette convention aujourd'hui. P2A, aujourd'hui, une agriculture très riche, très diversifiée. Et je crois qu'elle le touche à tous les domaines, que ce soit ce domaine d'excellence, que ce soit au niveau de l'élevage, qu'il soit bovin, ovin, caprin, que ce soit au niveau de son arboriculture, parce que vous avez un territoire très étendu. Je crois qu'aujourd'hui, l'ensemble des productions sont présentes sur ce secteur-là et d'être capable aujourd'hui d'essayer de réfléchir tous ensemble pour optimiser effectivement la commercialisation des produits, que ce soit en circuit court et en proximité, c'est quelque chose dont nous avons l'habitude de faire. Je pense entre autres aux maisons de prix du pays, Malmoisson, Montclar, il y a aussi les marchés locaux, Estoublon, Aiglun, Moustier. Il y a aujourd'hui des habitudes qui ont été prises depuis maintenant de nombreuses années pour accompagner effectivement les producteurs locaux. Nous sommes sur un territoire très dynamique où l'installation aujourd'hui est importante. Et vous l'avez soulevé l'un et l'autre, on touche au foncier. Et c'est vrai que le foncier aujourd'hui est quand même un peu le nerf de la guerre pour l'installation des jeunes agriculteurs. Il faut qu'on soit capable tous ensemble d'avoir un véritable projet structurant dans le cadre du futur SCOT pour l'aménagement du territoire. Tous ensemble, nous avons cette faculté d'essayer de trouver un juste équilibre pour effectivement avoir un développement harmonieux de nos communes, de nos villes, mais aussi d'une agriculture qui est aujourd'hui, on en voit plus que jamais, des consommateurs qui sont en attente de proximité, de circuits courts. Nous avons été associés dès le début pour monter le diagnostic du PAT. Aujourd'hui, on avance tranquillement, mais pour bâtir cette stratégie, je peux m'en féliciter. On a parlé de l'eau et tout à l'heure, j'ai été interrogé sur les problèmes de sécheresse. Alors, il y a Volouve, effectivement, qui, bon, voilà, c'est un sujet d'actualité en plus ce mois-ci. Mais je pense entre autres aussi aux agriculteurs qui sont sur la Bléone, sur l'Asse, pour certains qui ont connu des restrictions importantes. Hein, je pense au bassin versant de l'Asse, où on demande maintenant, dès que possible, on a eu la chance d'avoir quelques orages, quelques pluies, mais à l'administration d'être la plus rapide possible pour enlever les restrictions, mais pour permettre à nos agriculteurs aussi de retourner vers l'implantation de cultures d'automne, et ça peut peut-être faire sourire. Mais il faut penser que les productions d'automne que nous allons implanter, ça sera d'autant moins des cultures de printemps. Culture de printemps qui veut dire irrigation en 2023. Voilà, on a passé un été très particulier, une sécheresse comme on n'avait jamais connu. On a des outils pour essayer d'avancer ensemble pour cette agriculture la plus dynamique possible. La Chambre d'agriculture est cette courroie de transmission, et je vous en remercie une nouvelle fois, entre les collectivités, entre aujourd'hui P2A, pour accompagner avec notre expérience. Nous avons quand même aujourd'hui des collaborateurs qui sont capables d'apporter leurs compétences dans beaucoup de domaines. Je ne voudrais pas oublier la forêt aussi. C'est tous des secteurs sur lesquels aujourd'hui on peut apporter notre compétence, et merci encore de nous avoir aujourd'hui fait confiance. Et le chemin est encore long. C'est quand on signe une convention, l'idée c'est quand même de la faire vivre et qu'elle ne soit pas juste là pour bloquer l'étagère branlante de la mairie. Je ne dis pas qu'il y en a, hein. Mais voilà, on va faire en sorte d'avoir cette collaboration dynamique pour que ça réussisse.
Des écoles dinoises inclusives.
Avec notamment la mise en place cette année à l'école des Féréoles d'une UMA, une unité maternelle autiste dans un établissement, la ville de Digne poursuit une forte dynamique sur l'inclusion, et ce, en partenariat avec des structures publiques et privées. Outre ce volet, l'adjoint au maire Pierre Sanchez fait le point sur la pré-rentrée scolaire à Digne-les-Bains. Les inscriptions scolaires ne sont pas terminées, mais les effectifs restent stables, avec à ce jour 1272 enfants répartis sur 11 écoles. Le campus connecté est en progression. Pierre Sanchez répond aux questions d'Odile Frison.
Je m'appelle Pierre Sanchez, donc je suis maire adjoint à l'éducation, à la jeunesse et à la formation professionnelle. À la ville de Digne.
Alors aujourd'hui, vous avez choisi de faire ce point presse pré-rentrée scolaire dans l'école des Féréoles. Pourquoi ?
Pourquoi l'école des Féréoles ? Ben justement parce que nous sommes sur une dynamique de création, notamment en collaboration et en partenariat, bien sûr, avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, avec l'inspection académique et la municipalité de Digne, bien sûr, qui a sollicité ces deux instances pour pouvoir créer le projet d'UMA sur la ville de Digne. Pour cela, nous avons aussi travaillé en collaboration avec l'UNAPI, qui était porteur de ce projet et qui a été retenu pour ce projet. Il faut savoir que l'ARS donc et l'inspection académique donc a donné son accord pour cette création-là. La mairie, bien sûr, a fortement sollicité ces deux institutions de telle façon à ce que ça puisse se réaliser. Ça se réalise à partir du 1er septembre. Pour cela, la ville a mis en place donc sur l'école des Féréoles, qui nous paraissait être le plus judicieux en termes d'accueil et en termes d'infrastructure, puisqu'il y a un parking qui va permettre l'accueil des enfants qui pourront peut-être être accompagnés par des taxis à certains moments. Il y a l'école, l'espace maternel qui a pu permettre de mettre en place donc sur une classe de à peu près 78 mètres carrés une infrastructure qui va donc accueillir ces enfants, donc un espace collectif relativement important qui pourra accueillir entre 5 et 7 enfants, puisque il faut savoir que l'UEMA permet d'accueillir au maximum 7 enfants. Donc à la rentrée scolaire de septembre, il y en aura 5, et sûrement nous allons monter jusqu'à 7 au niveau de l'effectif. L'inspection académique et l'éducation nationale ont mis en place un enseignant spécialisé. L'UNAPI a mis en place donc une équipe pluridisciplinaire avec psychologues, psychomotriciens, éducateurs, aides-soignantes pour la prise en charge de ces enfants. Il faut savoir qu'on est dans la dynamique des écoles inclusives, puisqu'il faut savoir quand même que déjà l'école des Féréoles fait partie des écoles inclusives, puisqu'elle permet d'accueillir des enfants d'associations, et notamment de la Méronnette, qui accueille des mères en difficulté, et d'autres associations, qui sont l'association Saint-Martin, qui peuvent être l'association APAS aussi, qui oriente des enfants sur ces structures-là. Je crois que ça, c'est une dynamique très très importante, la notion d'inclusif. C'est pour ça que l'idée de l'école des Féréoles nous paraissait la plus judicieuse et la plus propice.
Donc en ce qui concerne les autres écoles, les effectifs
Sur les autres écoles, donc nous avons des effectifs stables, puisque nous avons l'année dernière, je crois que nous étions à 1273 enfants à la rentrée scolaire. À ce jour, et les inscriptions ne sont pas terminées, mais nous avons 1272 enfants, donc répartis sur 11 écoles et notamment sur 64 classes. La ville met à disposition aussi sur l'ensemble de ces écoles un personnel de la municipalité, notamment à hauteur de 24 ADSEM qui interviennent sur les temps d'accueil des enfants, sur le temps du matin, sur le temps périscolaire et sur le temps de la pause méridienne. Je crois qu'il est important aussi de dire que la ville met à disposition gratuitement des activités temps scolaires. Donc, sur les activités temps scolaires, nous proposons gratuitement à l'ensemble des écoles de la natation, du ski, de la gymnastique, du golf, de l'éducation musicale, du vélo, de la voile. Et puis nous avons décidé dernièrement, en travaillant en relation avec le centre équestre sur la ville de Digne, de pouvoir, pour deux écoles, pour deux classes, donc deux classes Ulysse, donc ce sont des unités localisées d'inclusion scolaire, ce sont des enfants qui ont quelques difficultés, la possibilité d'avoir des séances d'équitation sur la ville de Digne. Là, on est sur un nouveau projet, aussi sur une nouvelle dynamique.
Quelques mots sur les travaux.
Les travaux sur la ville de Digne, alors de la peinture sur les arches à hauteur de 11 400 euros. Sur le pigeonnier, donc des travaux de rénovation énergétique, donc là c'est vraiment un très très gros chantier qui s'est fait pendant la période estivale à hauteur de 224 480 euros. Nous avons eu une subvention de l'État de 101 000 euros. Pour la construction donc de l'espace UMA, nous avons investi, la ville a investi 25 000 euros, c'est-à-dire que les travaux ont été faits dans l'espace estival. Et puis, je crois qu'il y a aussi une évolution, notamment pour les différentes écoles de la ville, c'est que nous mettons en place un environnement numérique de travail, donc qui va permettre de mettre en lien parents, enfants et enseignants, notamment sur tout ce qui est données d'information scolaire. Donc là, c'est pareil, nous avons une subvention de 70 000 euros, et notamment, voilà, donc un investissement numérique dans le cadre du plan de relance pour un socle numérique dans les écoles. Voilà. Après, je peux vous parler aussi du campus connecté, qui me paraît être un élément important de la ville de Digne, puisque c'est la deuxième année. Et là, c'est pareil, nous sommes montés un petit peu en puissance au niveau de l'accueil des étudiants. Nous accueillons 11 étudiants à la rentrée de septembre, donc 5 étudiants en première année de licence, donc le domaine psychologique, histoire, langue espagnole et anglais, en deuxième année licence en psychologie, un étudiant en licence 3 en lettres, donc 2 étudiants en master en sciences de l'éducation, un étudiant en doctorat en littérature et un DAEI, donc, qui permet à des étudiants qui n'ont pas le bac de pouvoir accéder à des formations supérieures par la suite en fin de formation.
Assisteront petites et grandes histoires sur grand écran.
Tout a commencé en 2020 avec la création d'une association dont le but était de réaliser des documentaires sur l'histoire même de Sisteron et de ses habitants au fil du temps. Avec la nouvelle réalisation cinématographique de l'association Petites et Grandes Histoires Sisteronaises, la cité de Pollarène s'est retrouvée immergée au 5 mars 1815 pour le tournage du film Napoléon d'une rive à l'autre, dont une projection publique aura lieu le 9 septembre à l'Alcazar. L'objectif du réalisateur et de son équipe, retracer étape par étape l'itinéraire de Napoléon après son retour de l'île d'Elbe, depuis Golfe-Juan jusqu'à Sisteron. Ville déterminante sur le trajet de l'empereur pour relier Paris, la citadelle étant le point stratégique de son avancée. L'épopée impériale aurait pu s'arrêter là. Au micro de Chris Alessandri, le réalisateur Pierre Garcia et Jean-Baptiste Collomb, son assistant, par ailleurs descendant de Jean-Joseph de Gombert, à l'époque maire royaliste de Sisteron, qui devait bloquer l'avancée des troupes napoléoniennes.
Pierre et Jean-Baptiste, est-ce qu'on peut vous définir comme passionné de l'histoire en général de Sisteron et de l'histoire peut-être en particulier et réalisateur aussi? Est-ce que la définition vous va bien?
Alors oui, la définition nous va bien. Je suis un passionné de l'histoire sisteronaise depuis à peu près déjà une quinzaine d'années. Je recherche tout ce qui est patrimoine sisteronais, histoire. Puis un beau jour, j'ai quand même décidé de réaliser tout ça en petit film. C'est ce que j'ai fait il y a quelques années en arrière. Autour de moi, on va dire, on s'est fait une association qui s'appelle Petite et Grande Histoire Sisteronaise. Et aujourd'hui, aujourd'hui, on a pour but de faire des films un petit peu plus longs sur les multiples histoires qu'il y a eu dans Sisteron. Alors, ça peut être des histoires de 1000 ans en arrière, comme des histoires de 30 ou 40 ans en arrière, pas plus.
Ces films sont libres de droit, précisément pour servir à la postérité et aux générations futures. Et c'est vrai que la qualification de passionné d'histoire nous va comme un gant. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai rencontré Pierre, et c'est comme ça qu'on a eu ce coup de foudre amical, si je puis dire, à Notre-Dame-des-Pommiers, la cathédrale de Sisteron. Parce que l'une des premières choses qui m'est dite, c'est Sisteron, on retourne une pierre, et sous chaque pierre qu'on retourne, il y a une histoire à raconter.
C'est toute une aventure dans laquelle vous vous êtes lancé. Ce film, il a démarré comment? Parce que précédemment, il y avait déjà eu une réalisation, c'était sur la première exécution et la seule exécution à Sisteron.
Alors, lorsque nous avons créé l'association Petite et Grande Histoire Sisteronaise, il nous fallait réaliser assez rapidement un film. Il s'avère que j'étais tombé sur l'histoire du seul et unique guillotiné de Sisteron. Et dans le temps, dans les années 1900, c'était le seul guillotiné des Basses Alpes. Et on a décidé de faire un film animation, et on raconte sur 20 minutes à peu près l'histoire du guillotiné qui a été exécuté derrière la poste de Sisteron.
Sisteron, Napoléon, d'une rive à l'autre. Alors là, c'est l'aventure. Vous allez suivre Napoléon. Vous allez rentrer vraiment dans les traces de l'empereur. Comment ça s'est concrétisé tout ça?
Alors en fait, c'est une idée, c'est un projet qui est né dans la tête de Pierre il y a 3 ans de ça. Ça a été 3 ans de travail, mais vraiment 3 ans de recherche dans les archives municipales, nationales, les archives départementales. On a écumé tous les ouvrages, tous les articles de journaux de l'époque qui étaient à notre disposition au sein de la Bibliothèque nationale de France. Et au fil du temps, effectivement, eh bien, nous sommes aventurés et nous avons remonté cette fameuse route Napoléon. Mais non seulement ça, mais nous avons voulu véritablement mettre nos pieds, nos pas dans celle de l'empereur, en fait, et dans celle de ses grognards. Et c'est pour ça que nous avons voulu faire, je dirais, cette itinérance historique de Golfe-Juan jusqu'à Sisteron, en interviewant les maires des communes, les historiens spécialistes de la période, qui nous ont raconté véritablement en détail, vous savez, avec ces petites anecdotes qu'on oublie, qui sont ces petites histoires dans la grande, et qui nous donnent en fait tout le relief et toute la hauteur et toute la beauté aussi, et le charme de cette épopée, si je puis dire, qu'on appelle aujourd'hui les 100 jours.
Sur les traces de Napoléon, il s'est arrêté un peu partout, puis on l'a rencontré, on lui a parlé, il s'est passé des choses. Est-ce que vous avez comme ça des petites anecdotes croustillantes?
Allez, oui, une pour vous donner l'envie de venir nous voir et de venir voir le film à l'Alcazar le 9 septembre. Effectivement, l'empereur s'arrête dans une auberge, il y a des œufs, donc il demande une omelette, il se régale de cette omelette, et au moment de l'addition, eh bien, l'empereur est impressionné, il n'en revient pas parce que le montant de l'addition est absolument exorbitant, c'est hors de prix. Napoléon se tourne vers l'aubergiste, il lui dit: mais dites-moi, monsieur l'aubergiste, les œufs sont-ils si rares en France aujourd'hui pour qu'ils soient si chers? Et l'aubergiste lui répond: les œufs, non, sire, mais les empereurs, oui.
Et alors là, entre en scène les professionnels de la caméra aussi, de la mise en scène, puisqu'il va y avoir les acteurs, il va y avoir les figurants, les comédiens, il va y avoir toute mise en scène. Il y a l'image, il y a l'éclairage, tout ce qui gravite autour du milieu du cinéma en général.
Alors oui, en effet, on a la chance dans l'association d'avoir des anciens professionnels. On a notamment Roch Pescadère, qui était un ex-grand reporter, mais qui a fait énormément d'émissions de télévision niveau caméra. On a aussi Michel Jacob, qui lui tourne toujours en tant que preneur de son, avec pas mal d'équipes de réalisation de courts-métrages. Et donc, toute cette équipe-là fait qu'aujourd'hui, on produit quelque chose qui est quand même assez remarquable.
Et nous avons eu la chance d'œuvrer avec des figurants qui se sont immédiatement fondus, si je puis dire, dans l'histoire. Et nous avons aussi eu la chance, eh bien, de révéler un Napoléon. Patrick Niel, qui est devenu notre Napoléon, mais qui n'est pas seulement devenu notre Napoléon.
On avait besoin d'un Napoléon. On est descendu à Saint-Raphaël pour voir un débarquement de Napoléon. C'était au mois de septembre 2021. On arrive à Saint-Raphaël et malheureusement pour nous, c'était le débarquement de Bonaparte, l'arrivée de Bonaparte d'Égypte. Et donc, c'était pas du tout ce que l'on voulait. J'ai dit à un gars: mais tu peux pas nous habiller un Napoléon Tiens, prends le petit monsieur là-bas, tu lui mets une redingote. Tu n'as pas un bicorne, mets-lui un bicorne sur la tête, s'il te plaît. Ils y mettent un bicorne sur la tête. Allez, retourne-toi, tu regardes la mer, on te filme de dos et tu feras Napoléon pour notre film. Il s'avère qu'on a révélé, comme disait Jean-Baptiste, un Napoléon qui a tourné durant presque une année avec nous. Et aujourd'hui, Patrick est demandé dans toute la France pour incarner Napoléon lors de reconstitutions historiques concernant Napoléon. Il est demandé partout.
Le synopsis du film, de quelle façon vous en êtes occupé? Il faut arriver à faire quelque chose de percutant, qui sorte aussi de l'ordinaire et qui colle à la réalité.
Alors concrètement, on présente ce film comme un épisode méconnu et oublié de l'histoire de France, qui aurait pu faire basculer le sort de la Provence, de Sisteron évidemment, qui aurait pu renverser l'histoire de France et qui aurait pu changer à jamais le visage de l'histoire de l'Europe. Pourquoi ? Parce que si mon ancêtre, le maire de l'époque, Jean-Joseph Laurent de Gombert, avait réussi son coup d'arrêter Napoléon, il n'y aurait pas eu les 100 jours, il n'y aurait pas eu Waterloo et... évidemment, peut-être que la carte de France et peut-être que le destin de la France en eût été changé.
Alors c'est un film, on a envie de le voir, là ça y est, format télévision, c'est un 52 minutes. Comment est-ce qu'on peut faire ?
Alors si vous voulez voir le film, vous nous rejoignez le 9 septembre par exemple à Sisteron, à la salle de l'Alcazar, ce sera à 20h. Et après vous pourrez nous retrouver dans toutes les communes de la route Napoléon, de Golfe-Juan jusqu'à Sisteron.
L'Alcazar c'est gratuit, c'est ce que je voulais dire. Toutes les diffusions que l'on fera un petit peu partout, pour l'ensemble des gens qui viendront voir le film, ce seront les communes qui le prendront en charge et une gratuité pour les gens qui viendront le voir.
Un immense merci à tous ceux qui nous ont soutenus, tous ceux qui nous ont encouragés.
Et je voudrais aussi remercier la municipalité de Sisteron et son maire, sans qui aujourd'hui cette association n'existerait pas. Et vraiment un très très grand merci à la municipalité de Sisteron.
Manosque, le polar et le blues ont leur chapelle.
C'est une réalité et pas seulement un mot d'esprit. La dernière édition du festival Blues et Polar trouve ses quartiers à la chapelle de Toutes Ores. Après la Charbonnière et l'ex-auberge de jeunesse, depuis quelques années déjà, l'équipe du festival a posé romans et amplis à l'ombre de l'antique chapelle qui domine Manosque. Et avec le soutien des amis de Sambrancaille, au premier rang desquels leur présidente Guylaine Lefebvre, l'équipe de Blues et Polar offre des soirées gratuites, inoubliables, à un public conquis depuis déjà 18 éditions. Aux manettes, Jean-Pierre Tissier, ancien journaliste passionné de romans noirs et de blues, il anime les rencontres d'écrivains, joue de l'harmonica avec les musiciens et concocte des partenariats fructueux, comme avec l'équipe du Cinéma de Pays qui a clôturé l'édition 2022 par une projection en plein air très appréciée. Je vous propose d'écouter plusieurs invités du festival, écrivains, éditeurs et musiciens, tous disent leur enthousiasme et leur fidélité pour Blues et Polar et saluent le dynamisme de son fondateur, Jean-Pierre Tissier. Vous entendrez René Frény, Patrick Coulon, Marie-Noël Pascal, Janine Gerson-Père, Michel Ivogno, Pierre Meige, Jean-Paul Avellaneda et Céline Picard. Le parrain depuis le début de Blues et Polar, René Frény, qu'est-ce que c'est Blues et Polar pour vous ?
Un moment d'amitié, un moment d'été, un moment de tendresse, je dirais, parce que bon, ça ressemble pas du tout à tous les festivals français qui regroupent des dizaines et parfois des centaines d'écrivains dans des grandes villes. Là, on est dans un lieu paradisiaque, sur une colline, près d'une chapelle, et c'est un moment d'amitié. Donc, on mange une soupe au pistou, on écoute de la musique, on regarde un film, on retrouve les copains qu'on n'a pas vus depuis le début de l'été, on achète un bouquin. C'est une fête entre amis, je dis toujours c'est petit crime entre amis, petite complicité criminelle autour de cette chapelle, et c'est un peu l'idée, l'âme de Jean-Pierre qui fait ça depuis 18 ans. On avait fait une première édition pour voir. Jean-Pierre nous avait dit à François-Olivier Gisbert et à moi, faites un débat dans un champ, on verra bien, et on a fait un débat. Et il se trouve que, comme c'était nouveau à Manosque, qu'il n'y avait pas encore les correspondances peut-être, enfin c'était très nouveau, et il y a eu 400 personnes. 400 personnes dans un champ, on a fait un débat sans se prendre la tête avec France, et donc Jean-Pierre m'a dit, il faut continuer. Et c'est lui qui a tout développé, depuis 18 ans. Parce que bon, c'est un spécialiste du blues, de la musique. Il est devenu un peu un spécialiste de la littérature, qu'il n'était pas. C'était un bon journaliste, mais c'était pas, je crois, un grand amateur de littérature. Mais il le devient, parce que bon, il consacre son année à lire, à aller voir des musiciens. Ah bon, il vit pour ça, il mange pour ça, il dort pour ça, il rêve pour ça, il se lève pour ça. Bon, il est obsédé par Blues et Polar. Il a raison. Cette année, il y a un peu moins de monde. Je ne sais pas pourquoi. La canicule, le fait que la colline est un peu plus difficile d'accès. Il y a eu cette année un petit fléchissement, mais pas dans le sens de l'amitié. Là, on vient d'écouter Pierre Meige. Bon, c'est magnifique. On est dans la mélancolie, la nostalgie, les vieilles chansons de Bob Dylan, des vieilles chansons françaises des années 60. Voilà, c'est un moment de grande tendresse au-delà du livre et de la musique. On est content de se retrouver. Ça va être la rentrée scolaire, la rentrée sociale. Les télévisions commencent à être très sérieuses. Et nous, on continue à être désinvoltes. C'est le soir d'été, on boit un pastis, une bière, on rigole jusqu'à minuit. Ça n'a rien à voir avec les grandes fêtes du livre, un peu sérieuses et parfois un peu guindées. Non, là vraiment, on vient en short, je dirais presque, on vient presque draguer les filles. Et voilà, c'est une très belle fin d'été.
Patrick Coulon, qu'est-ce que ça représente pour vous, Blues et Polar ?
Ça représente les débuts de ma carrière, entre guillemets, d'éditeur, puisque la première fois qu'on est venu ici comme auteur et comme éditeur, c'était au tout début des années 2000, avec ma maison d'édition de l'époque qui s'appelait Les Cahiers, et on a fait partie des premiers, entre guillemets, parmi les premiers à venir ici. Ça faisait longtemps que je n'étais pas revenu, mais ça me remémore les débuts de mon aventure éditoriale et littéraire, donc c'est un plaisir d'être là en fait. Et j'ai l'impression que ça représente beaucoup ici, en fait, que c'est important que ça existe et que ça re-existe, parce que avec ce qui s'est passé, le Covid, tout ça, il y avait eu un trou, et là c'est bien que ça redémarre. Ouais.
C'est aussi l'enfant, le bébé même, on devrait dire, d'un journaliste comme vous, de la Provence, un ancien journaliste, Jean-Pierre Tissier.
Oui, alors on est deux en fait à la Provence à avoir dérivé vers le polar, Jean-Pierre et moi, chacun à sa manière, lui en montant du festival, moi en faisant de l'édition et en écrivant, mais j'ai aussi monté des festivals à Marseille, donc je comprends ce désir de monter un festival, cette envie, ce besoin, et puis je comprends aussi l'importance qu'un festival peut avoir sur une zone comme ça, et en particulier pour moi, ce qui est important, je pense comme Jean-Pierre aussi, c'est un festival littéraire, alors lui il y mêle la musique en plus, ça tombe bien, c'est une musique que j'aime aussi, donc tout va bien. Pierre Meige qui était là, c'est un garçon que j'ai publié en tant qu'éditeur, j'ai publié un de ses romans, donc il y a vraiment des connexions, quoi.
Marie-Noëlle Pascal, qu'est-ce que c'est Blues et Polar pour vous ?
Un moment de convivialité extraordinaire, de musique et de littérature. Ça existe depuis des années. On a eu très très peur que ça disparaisse. Maintenant, c'est reparti. Tout le monde est passionné, complètement. Et puis Jean-Pierre, bien sûr, c'est son bébé à lui. Il a réussi à réunir la musique et la littérature. C'est génial. C'est quelque chose... Vraiment, on lui souhaite très très longue vie.
Actuellement, vous êtes en train d'écrire, vous avez écrit votre 7e roman, vous avez publié aussi 2 ouvrages magnifiques sur les faits divers et les affaires criminelles. Où en êtes-vous ? Encore un livre en préparation ?
Encore un livre en préparation, oui, bien sûr, avec quelqu'un qui est de nouveau fantastique, que j'adore.
On n'en saura pas plus.
Non.
Jeannine Gerson-Père, qu'est-ce que c'est Blues et Polar pour vous-même ?
Blues et Polar, c'est d'abord Jean-Pierre Tissier. Jean-Pierre Tissier qui a une énergie que j'admire, parce que je sais que depuis 18 ans, il se donne un mal fou pour organiser et garder cet esprit d'amour de la musique, d'amour des mots, et puis le partage entre copains. C'est ça que j'adore.
Comment est-ce que vous avez connu Jean-Pierre ?
Eh bien, Jean-Pierre Tissier, il faut dire qu'on a travaillé ensemble pendant 10 ans. Pendant 10 ans, j'ai été correspondante de presse pour le journal La Provence, alors que lui était journaliste. Et ça a été pour moi un bonheur. Je pense que ce sont mes 10 plus belles années que j'ai vécues.
Michel Ivogno, si je vous dis Blues et Polar, vous pensez ?
Eh ben, je dis bravo, une persévérance qui force le respect. C'est vraiment un amalgame qui coule de source, le polar et les intrigues qu'il y a dans le polar, et le blues qui est une vie d'intrigues. Je trouve que Jean-Pierre a bien trouvé le lien, c'est très très chouette.
Pour un architecte des mots et de la musique comme vous, c'est un moment important que d'être à Blues et Polar.
C'est exact, ça fait très plaisir et c'est un moment important à plusieurs titres, en tant que monosquin aussi, et aussi pour rencontrer des auteurs et pour faire bien la connaissance de Jean-Pierre, que je connaissais de par la bande, disons, sans vraiment être intime. Et bon, je m'aperçois qu'il y a vraiment un don de soi qui est très important, ça fait très plaisir.
Pierre Meige, un habitué de Blues et Polar, et Jean-Pierre Tissier dit même un frérot.
On a commencé sur la route de Sainte-Tulle à Manosque, il y a 18 ans, quelque chose comme ça. Puis après, on s'est retrouvés au parc un peu partout. Puis là, c'est très joli, à la chapelle tout or. Donc oui, bah, c'est un beau moment de partage. Hein.
La musique également.
Ah oui, tout ce qui est blues. Et puis l'idée que Jean-Pierre a eu du pique-nique, un peu les chansons à la carte, très très sympa. Hein. Je suis toujours content de venir partager la musique et les beaux refrains, quoi. Hein.
Ce qu'on retient de Pierre Meige, c'est le contact avec le public et ces clins d'œil qu'il envoie régulièrement aux personnes qui passent.
Bah oui, parce que quand tu fais bon, ou du piano bar, ou quand tu joues, quand j'étais plus jeune, je jouais dans les restaurants, dans tout ça. Les gens n'écoutent pas toujours, faut pas jouer fort. Faut trouver, ça s'appelle un peu pianiste d'ambiance, comme avait fait Charlie Couture. Faut que les gens soient contents. Mais là, il y avait une belle écoute, hein. Parce que quand tu, toi, là, c'était, bah, tu étais là, j'ai chanté, ça soit Thieffen, Nigelin, les Rolling Stones. Il y a une belle écoute, hein. Que quand tu joues dans les piano bars, bon, bah, les gens, ils viennent aussi boire un coup. T'es pas non plus, il faut s'adapter, quoi. Il faut savoir chanter doucement. Et pas trop fort, et en même temps que les gens écoutent. C'est un métier, tout ça. Hein.
Jean-Paul Avellaneda, on peut dire que vous faites partie de la famille du blues et polar.
Ah, mais j'étais là dès les premières éditions. Je vous signale, cher ami. Ça fait bien longtemps. Je ne sais même plus, ça fait combien de temps.
Ça fait 18 ans, très exactement.
Voilà, je me disais quelque chose comme ça. Je devais être jeune à l'époque.
Moi aussi.
Nous sommes deux à avoir été jeunes.
Jean-Paul, sérieusement, blues et polar, c'est une dynamique impulsée par Jean-Pierre.
Jean-Pierre, c'est un électron libre. Je le connais depuis très longtemps, puisque c'était en 86, comme on le soulignait précédemment. Ce gars, il a une énergie et une passion à la fois pour la littérature et pour la musique. Et je ne sais pas comment il arrive à être sur tous les fronts en même temps, parce qu'il est très pointu au niveau littérature et il s'y implique. Et en plus, en musique, il est là, il vit vraiment ce style musical qui est le blues, d'où le nom blues et polar qu'il a. Et il a réussi à installer depuis 18 ans, donc, un rendez-vous annuel. C'est toujours, en général, le dernier week-end d'août. Et il y a toujours un public fidèle, non seulement fidèle, mais j'ai vu que ça se renouvelait. Il y avait des têtes nouvelles qui apparaissaient. Donc, je pense qu'il fait un bon boulot. Pas que lui, parce qu'il y a toute l'équipe autour. Hein, parce que c'est un sacré travail de monter ça, on dirait pas. Hein. Ça doit représenter quelques mois de travail, j'imagine. Donc, écoutez, respect pour ce monsieur.
Céline Picard, vous êtes une nouvelle venue au sein de Blues et Polar. Qu'en pensez-vous ?
Oui, effectivement, c'est mon premier festival Blues et Polar. Donc, Jean-Pierre Tissier m'a fait l'honneur de m'inviter pour la sortie de mon premier polar. Pour moi, ça représente une première, on va dire... une visibilité pour moi, donc dans ce festival qui est très connu à Manosque. Ouais, j'étais ravie de venir et de participer à cette table ronde qu'il avait organisée.
Ce mélange entre le polar et puis la musique.
J'avoue que c'est une première pour moi, parce que je ne suis pas très fan de musique, hein. J'écoute comme tout le monde un peu de musique, mais c'est vrai que là, je découvre un peu ces deux univers qui se mélangent plutôt bien, hein, puisque le polar et le blues, c'est vrai que ça va bien ensemble. Donc encore une fois, je suis ravie de cette découverte.
C'est aussi une promotion de vos activités en tant qu'écrivaine.
Tout à fait, oui, c'est vrai que ça me met un petit peu en avant, donc ça aide toujours, hein, en tout cas pour un premier roman et pour un, on va dire, en tant qu'auteur novice, en tout cas apprenti auteur, on va dire, ça permet effectivement de se faire connaître, puis de découvrir d'autres auteurs aussi, donc c'est très appréciable.
Vous avez dit novice, justement, c'est le nom de votre maison d'édition.
Tout à fait, oui, c'est ça en fait, c'est leur, on va dire, leur cœur de métier, c'est de mettre en avant des nouveaux auteurs, des premiers romans, donc des auteurs novices, hein, c'est le cas, hein. Donc c'est vrai que ça correspond tout à fait à ce que je suis, donc encore une fois, ça tombe bien, voilà.
C'est la fin de ce magazine. Merci François.
Merci Louis pour la régie et à la semaine prochaine.